9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre bonne santé, et nous allons parler du pied ce matin. Voilà, avec mon invité qui s'appelle France Guilin, qui a le pied marin. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes une navigatrice hors pair, vous êtes scientifique de formation, vous êtes spécialiste de médecine naturelle, vous êtes devenue, et depuis des années, vous êtes la pionnière de la transmission de cette médecine avant qu'elle devienne à la mode. Hein.
Oui, d'une certaine façon.
Oui. Ah oui?
C'était par nécessité.
Parce c'est que un demi-siècle que vous transmettez votre savoir.
Oui, c'est vrai.
on parlait de vos débuts chez Robert Laffont.
Oui. C'est ouais, vrai.
Voilà. Et mais bien avant que ce soit un genre littéraire.
Oui, ce qui est drôle, c'est que le fondateur de la Vie Claire, Monsieur Geffroy, qui a créé la Vie Claire, avait acheté 4000 livres de mes navigations et il l'avait considéré comme le livre le plus naturiste de l'année, c'est-à-dire où on vivait selon les règles de la nature. Et le mot naturiste était très approprié parce que naturiste, c'est pas de l'exhibition tout nu, même si on se met tout nu quand on en a envie.
Quand on fait du naturisme, oui.
Mais c'est d'abord vivre selon les règles de la nature, c'est-à-dire manger des vrais poireaux, manger des aliments naturels, faire du sport dehors avec l'air et le soleil, et non pas en salle et en jogging, enfin, etc.
C'est plein de bon sens et aujourd'hui, tout le monde trouve ça formidable.
Ben oui.
Donc vous avez une méthode qui porte votre nom.
Oui. C'est un peu par hasard parce que beaucoup de naturopathes utilisaient ce que j'écrivais, ce que j'enseignais, et comme ils le déformaient, ça me revenait déformé et les gens venaient se plaindre à moi en me disant j'ai fait votre méthode mais ça marche pas. Et mes enfants m'ont dit maman si tu fais pas un livre pour cadrer ça, tu vas avoir des problèmes. Donc c'est un peu contrainte et forcée, parce que je dis contrainte et forcée parce que c'est que des choses qui appartiennent à l'humanité. Je n'ai rien inventé.
Oui.
J'ai simplement réuni des... Mon rêve, c'est qu'on n'ait plus besoin d'écrire de livres ni de faire de conférences et que tout revienne dans les familles comme c'était à l'origine. C'est ça mon rêve.
Vous avez remis au goût du jour les bains dérivatifs. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a comme rapport avec le pied? Bah, quand on a des problèmes de pied, parfois, les bains dérivatifs, ça aide.
Bien sûr, énormément. Bains dérivatifs, en fait, existent depuis des milliers d'années. Ça a toujours existé. Les oiseaux le font.
On confond souvent avec bains de siège, mais c'est pas exactement ça.
Voilà, c'est simplement le rafraîchissement de l'entrejambe. Mais toutes les religions l'enseignent. La Bible l'enseigne, la Torah, le Coran. Ils appellent ça les ablutions qu'on doit faire tout en disant sa prière, donc ça doit durer un certain temps, mais maintenant les gens avalent la prière, ils la disent trop vite.
Ne dites pas ça, non, on va se fâcher avec personne.
Voilà, mais voilà, et il le faut un peu trop vite, mais même vous allez en Inde, partout dans tous les pays du monde, c'est une technique qui est enseignée, même en médecine chinoise, mais pas en France, mais en Chine, oui. Et voilà, et en fait, ça revient à la nature, c'est-à-dire qu'un être humain dans la nature, à l'origine, il vit sous les tropiques, il fait chaud, il n'a pas besoin de vêtements, il marche beaucoup, il cherche un copain, une copine, il cherche des mangues mûres, etc., ou un endroit où dormir, et en marchant, il a la sueur qui glisse le long du corps, qui se rassemble avec les poils du pubis, si on ne les enlève pas, ça se rassemble au milieu, et en marchant, ça s'évapore et ça fait de la fraîcheur. Et ça absorbe toute l'inflammation interne. Donc c'est très très intéressant, ça a été très bien étudié, il y a une magnifique encyclopédie là-dessus d'ailleurs.
Bon, et en tout cas ça fonctionne, il y a eu un vrai mouvement, vous l'avez enseigné et vous l'avez transmis en tout
Exactement.
Cas. Vous l'avez remis au goût du jour comme on dit.
Voilà.
Et vous publiez donc en poche aux éditions du Rocher, Nos chers pieds, bien-être, beauté, confort. Alors, il y a beaucoup de poésie dans votre livre. Hein. C'est très bien fait. Ce sont des petits chapitres courts. Vous racontez que vous avez marché pieds nus plus des trois quarts de votre vie sur des sols naturels, sautant d'une pierre à l'autre, dans les rivières, courant dans la brousse ou sur des plages de corail. Alors là, ça fait mal aux pieds. Et aussi sur le pont des bateaux parsemés d'embûches. Qu'est-ce que ça a eu comme impact tout ça sur vos pieds?
Ça vous remet sur terre et au présent. Si on vous bande les yeux et qu'on vous dépose dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous êtes pieds nus, vous avez déjà énormément d'informations sur le lieu où vous vous trouvez et sur la saison, vous avez énormément d'informations parce que les pieds sont des capteurs très, très importants. On a beaucoup, beaucoup de terminaisons nerveuses. On a le quart de nos os aux pieds. Ça veut dire qu'il y a énormément d'articulations, de ligaments, de muscles, etc. Et tout ça est en souffrance et fait un peu pitié quand c'est enfermé dans des chaussures, parce que tout ça, normalement, est fait pour vivre.
Vous appelez ça comment, les chaussures ?
Pardon ?
Vous appelez ça comment, vous, les chaussures ?
Des boîtes à pieds. Parce que, en plus, elles n'ont même pas la forme du pied. Des chaussures normales devraient être larges à l'avant. Ça a existé dans les années 75 à peu près, enfin 1975 puisqu'on a changé de siècle. Ça a existé, ces chaussures un peu plus larges devant, elles étaient très très chères, elles se vendaient place Saint-Sulpice justement, enfin tout près, mais ça n'a pas eu de succès du tout parce que ça, c'était pas la forme pointue de l'avant, et ça abîme énormément les pieds. Moi j'ai des petits enfants qui tout l'hiver portent des sandales pieds nus.
Alors, vous êtes pour la libération des pieds des enfants.
De tout le monde. De tout le monde, parce que comme on est posé sur ses pieds, on est posé dans la vie.
C'est une des punchlines de votre livre, celle-là. Comme on est posé sur ses pieds, sur ses pieds nus, on est posé dans la vie.
Absolument. Si on est bien sur ses pieds, ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin ça m'est arrivé souvent de rentrer après le dernier métro à Paris, après avoir été chez des copains, voilà, et d'être suivi. Ça m'est arrivé quelques fois d'être suivi, et chaque fois je me disais, j'enlève les talons, les talons c'est une arme, puis en fait je me retournais, je parlais à la personne qui me suivait, et puis sachant ça faisait tout tomber, quoi.
Et vous vous disiez, de toute façon, j'irai courir pieds nus, je vais courir très très vite, et ça vous rassurait.
Exactement. Parce que, en travaillant sur le pied, j'ai fait aussi une découverte qui m'a enchantée. C'est le pied de singe, 13% de la population. Parce que, on s'est toujours payé ma tête parce que je courais sur la pointe des pieds. Je suis jamais arrivée à courir comme on apprend à l'école, en posant le talon d'abord avec les chaussures. Et donc, je courais très maladroitement avec des tennis. Et puis, ces dernières années, les créateurs des Five Fingers, des chaussures à doigts, ont relancé la course pieds nus parce que c'était les Mexicains des montagnes qui gagnaient toutes les courses parce qu'ils couraient pieds nus toute la journée, tout le temps. Et donc ils se sont inspirés de ça, et maintenant les coureurs de très haut niveau de marathon réapprennent à courir pieds nus sur la pointe des pieds précisément, parce que les orteils sont des propulseurs extraordinaires. Moi je peux pas monter agréablement des escaliers si je les monte pas 4 à 4. Et c'est sur la pointe des pieds. Ça, c'est beaucoup moins fatigant de monter des escaliers en courant sur la pointe des pieds que de les monter marche après marche. Je suis sûre qu'au niveau physiologique, c'est beaucoup moins fatigant, et on fait beaucoup moins travailler, on fatigue beaucoup moins les articulations.
Et les chaussettes hein, aussi, avec 5 doigts.
Alors, il y a les chaussettes à
chez les Japonais, ouais, donc.
Voilà,
et japonaises. Et vous aimez bien l'idée, en fait.
Elles mettent ça avec des escarpins. Et moi, j'en ai une paire que une de mes filles m'a rapportée du Japon, et que je mets avec des escarpins. C'est très confortable. Et puis, c'est pas du tout choquant.
Donc, un être humain sur 13 aurait des pieds de singe. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, en fait, ce sont ceux qui ont l'habitude de grimper aux arbres. Moi, j'ai énormément grimpé aux arbres. J'allais apprendre mes leçons dans les arbres, parce que j'avais pas de chambre. On avait une maison qui était toute petite, à Tahiti. Et je montais dans un manguier, le plus haut perché possible. Je m'installais avec mes bouquins. Et puis, je hurlais mes leçons à tue-tête pour les apprendre par cœur. Je dérangeais personne, mais j'étais dans les arbres. Pour nous, grimper dans un arbre, quand je suis arrivée en France en classe de seconde dans le Jura, j'avais 13 ans à l'époque, première sortie qu'on fait avec l'école, c'était à Dole dans le Jura, en octobre, on va dans la nature. Alors un chemin de terre, qu'est-ce que je fais moi? J'enlève mes chaussures, je vais pas salir mes chaussures sur un chemin de terre quand même. Donc j'enlève les chaussures, je vois un arbre, un pommier, c'est tout petit un pommier, c'est pas rien à voir avec un manguier. Je grimpe dans le pommier, et la religieuse qui était là ressemblait à une chauve-souris avec sa grande robe noire là. Et, France, France, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez pas ce que je faisais. J'étais montée dans un pommier. Elle me dit, mais vous allez tomber. Tu parles, un pommier, ça fait quoi, 2 mètres, hein, même pas. Donc, je dis, ben non, enfin, j'étais étonnée qu'elle me parle de tomber. Et puis, elle me dit, mais on n'a pas le droit, ça appartient à quelqu'un. Alors, je dis, ben, alors, où est-ce qu'il y a des arbres qui appartiennent à personne? Parce que, en Polynésie, on avait toute l'île à nous. Elle me dit, mais tout appartient à quelqu'un, même dans les forêts. Je m'en suis toujours pas remise, hein, aujourd'hui.
Mmh. Et alors, moi, j'en reviens à mon pied de primate. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pied de primate et le pied d'un homme?
Alors, un pied de primate, il est fait pour grimper, justement. Il prend, il a la capacité de se courber pour prendre la forme des branches, ce qui est mon cas, précisément. C'est-à-dire, c'est un pied qui est très souple. C'est un pied qui peut attraper des choses avec ses orteils facilement, et puis qui peut se tenir aux branches, qui est vraiment se tient aux branches comme les mains. Et il faut des branches un petit peu plus grosses que pour les mains, mais il se tient. Et c'est un pied qui n'a pas de plaisir à marcher. Mais par contre, moi j'adore le surf, le vélo, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. À Paris, dans la rue, j'ai beaucoup plus de plaisir à courir qu'à marcher. C'est plus confortable pour moi. Et la chaussure m'oblige à avoir le pied plus raide. Et j'aime pas du tout les chaussures.
Et vous venez d'une île hein, où les enfants, à l'époque, hein, faisaient 7 à 10 kilomètres le matin. Ils marchaient 7 à 10 kilomètres pour aller à l'école.
Marchaient pieds nus.
Aller-retour. Hein.
Oui. Et les gens, quand ils allaient à l'église le dimanche, ils avaient les chaussures à la main. Ils marchaient pieds nus. Et quand ils arrivaient à l'église, à côté, il y avait un robinet. Ils se rinçaient les pieds, ils rentraient les pieds dans les chaussures et ils rentraient dans l'église. Puis quand ils ressortaient de l'église, ils enlevaient les chaussures pour pas les salir. Et ça m'a beaucoup amusée quand j'ai découvert qu'il y avait des pays où c'était le contraire. On se mettait pieds nus pour rentrer chez soi et on se chaussait pour sortir.
Alors, il y a plein de trucs dans votre livre. Un truc contre les mycoses.
Ah oui,
ça m'a fait rire. Oui, je sais, ça m'a fait rire.
Oui. C'est un truc tout simple. Alors, moi, je ne suis pas du tout adepte de boire son urine. Hein, ce n'est pas du tout mon truc. Mais parce que, pour une raison simple, c'est que si le corps rejette, ce n'est pas fait pour ravaler. Mon principe, c'est celui-là.
On vous donne. Parce que certains s'en servent comme thérapie. C'est pour ça.
Voilà.
C'est pour ça que vous
dites
ça.
Alors, en cas de survie, ça peut être tout à fait utile. Mais tant qu'on n'est pas dans la survie, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, en externe, l'urine est extrêmement intéressante. Sous les tropiques, on a des oursins qui ont des piquants très très longs et noirs et très fins. Et quand ils vous piquent, ils vous piquent pas, mais quand on marche dessus, le piquant s'enfonce dans la peau et c'est très 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 douloureux. Vous mettez de l'urine dessus, ça dissout immédiatement le piquant. Vous avez une abeille qui vous pique. J'ai vu, j'étais aux Philippines, à un moment, une de mes filles avait 5 ans, et je la vois qui dit sale bête, je regarde. Elle était en train de chasser une guêpe qui l'avait piquée, et en même temps, elle écartait son slip, elle faisait pipi sur son pied, parce que ça empêche le gonflement.
Et alors, rapport aux mycoses,
Pour les mycoses, on fait tremper les ongles de pied, enfin les doigts de pied, 10 minutes tous les jours pendant 15 jours. Ça élimine définitivement les mycoses, alors qu'aucun des produits pharmaceutiques n'y arrive à ce point.
Parce qu'aujourd'hui, se débarrasser d'une mycose de pied ou d'un champignon attrapé à la piscine, c'est quelque chose, il faut y aller.
Et ben, avec l'urine, c'est ce qu'il y a de plus efficace.
15 jours.
Voilà, 15 jours, 10 minutes tous les jours.
C'est garanti.
Ah ben ça marche. J'ai jamais vu que ça marche pas.
C'est vrai.
Alors si
vous avez testé sur combien de gens? Parce que je vais gérer les plaintes hein, moi.
Énormément de gens l'ont fait. Et alors la seule chose c'est que les gens me disent ah mais mon ongle est toujours tordu. Je dis oui mais il faut lui laisser le temps de repousser quoi. C'est tout. Mais sinon ça détruit complètement les mycoses. Il y a aucun doute là-dessus.
Vous avez essayé
aussi à laver ses chaussures de temps en temps parce que les chaussures elles sont au ras du sol et beaucoup de gens remettent ses chaussures sans les laver tout le temps, c'est complètement absurde parce que c'est comme si on remettait son slip tous les jours sans jamais le laver quoi. C'est un nid à champignons, à microbes et tout ça. C'est même les escarpins, ça se savonne de l'intérieur, toutes les chaussures doivent se laver, c'est normal. Mais tellement de gens ne le font pas, et après ils se plaignent.
Et tellement de gens ne le savent pas, surtout France Guilin, vous êtes notre invité.
C'est du bon sens pourtant.
Comme toujours, souvent la santé c'est du bon sens.
Mais oui, c'est du simple bon sens.
Vous publiez Nos chers pieds, bien-être, beauté, confort, aux éditions du Rocher, c'est en poche en plus.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et nous parlons des pieds ce matin, de vos pieds, de tous les pieds, avec mon invité France Guilin, qui vient de publier « Nos chers pieds, bien-être, beauté, confort, au rocher, poche ». Il y a plein d'expressions autour des pieds que vous ne revendiquez pas. Par exemple, « bête comme ses pieds ».
Ben, je trouve que c'est un peu maltraiter les pieds parce que ils nous supportent quand même une vie entière et ils nous emmènent partout où nous avons envie d'aller et ils méritent un très grand respect. Et donc, en plus, ils peuvent nous apporter beaucoup de bonheur. Donc, les pieds nous permettent de choisir notre vie, choisir le lieu où nous habitons, etc. Et même le travail que nous faisons. Quand on se plaint de manquer de liberté, souvent on oublie qu'on a des pieds.
Vous dites que les pieds, c'est la liberté.
Exactement. Et moi, je trouve que ça prend du poids particulièrement ces dernières années, cette liberté de poser ses pieds où on le veut.
On a été mis à pied là pendant quelques années. Il y a comme danser comme un pied. Il y a plein de...
Il y a énormément d'expressions.
Alors, il y a prendre son pied.
Oui.
Vous dites que les gens n'ont plus l'habitude de prendre leur pied. Et quand on dit de prendre le pied, c'est de prendre vraiment son pied dans sa main.
Oui.
Et il y a certains exercices, notamment pour les chanteurs ou pour les artistes, qui sont utiles, et de se réapproprier son pied dans la main.
Bien sûr.
C'est pour se réaligner.
Oui. Alors, pour les chanteurs, un chanteur peut beaucoup mieux placer sa voix quand il est pieds nus. Parce qu'il peut poser... Parce que l'appui qu'il a sur le sol, quand un spécialiste de la voix doit vous faire travailler, eh bien, il vous fait mettre pieds nus. Et il, moi, ça m'est arrivé, j'avais une petite irritation des cordes vocales. Et la phoniatre m'a dit, vous mettez pieds nus. Et puis après, elle a essayé de me faire tomber. Manque de bol pour une navigatrice, elle était mal tombée.
Vous aviez le sens de la mer démontée.
Mais comme elle me faisait émettre des sons en même temps, eh bien, ça m'obligeait à écraser le sol avec mes pieds, c'est-à-dire à être vraiment ancré. Et effectivement, beaucoup de gens ne sont pas ancrés. Et quand on chante, on a besoin d'appui. D'ailleurs, vous avez Évora, chanteuse qui chante...
Au pieds nus. Césaria.
Aux pieds nus. Oui.
Césaria Évora.
Césaria Évora, qui était toujours pieds nus. J'ai un ami chanteur, Richard Cross, qui a toujours chanté pieds nus, même en costume,
smoking.
En smoking, il a toujours chanté pieds nus. Alors, ça surprend, mais je comprends très bien. Il y a deux choses, moi, que je vois qui sont intéressantes. Quand on fait une conférence, quand on parle à un public, quand on donne un cours, eh bien, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. C'est être pieds nus, c'est-à-dire vraiment bien posé sur ses pieds. Alors, on ne peut pas toujours se mettre pieds nus, mais en tout cas, on appuie bien sur ses pieds pour bien poser sa voix. Et puis, être debout, parce qu'on respire beaucoup mieux que quand on est assis.
Et là, vous avez votre ancrage.
Voilà.
Ouais. Enfin, on peut toujours être pieds nus, c'est simplement que ça ne se fait pas, les conventions font aujourd'hui.
C'est uniquement ça.
Voilà, ça va choquer les gens si vous...
Exactement.
Quoi qu'aujourd'hui, vous pourriez donner une conférence pieds nus, vous pourriez vous
Absolument.
Le permettre. Vous pouvez...
Ah, mais je le fais souvent.
Oui, vous pouvez vous le permettre aujourd'hui.
Je le fais souvent parce que je trouve ça très intéressant. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que des spécialistes du dos, de la santé, etc., me disent, c'est incroyable, à votre âge, vous êtes droite, vous arrivez à tenir 4 heures comme ça, sans bouger, sans bouger d'aucune façon. Je suis simplement bien posé sur le sol, c'est tout. Quand le corps est en bon équilibre. Et d'ailleurs, je me souviens d'un chausseur de la vallée du Rhône, qui m'avait, du temps où on faisait encore
des vraies chaussures avec des vrais talons en cuir.
Voilà. Et bien, il m'avait expliqué comment choisir des talons, parce que moi, j'aime beaucoup les talons, je les aime toujours. Et bien, il m'avait dit, vous posez pieds nus, vous regardez dans la glace, regardez bien comment est le corps, comment est la colonne vertébrale, comment est le dos. Et il me dit, quand vous achetez les talons, vous devez avoir exactement la même position. Il m'a dit, sinon, c'est que le talon n'est pas adapté à votre corps. Et donc, c'était un chausseur qui faisait ça très très bien, très intéressant, parce qu'il me disait, le centre de gravité ne doit pas changer. On doit être exactement de la même façon. Or, la plupart des femmes aujourd'hui sont déséquilibrées par les talons. On en trouve de temps en temps qui sont...
Oui, mais aussi l'esthétisme de la chaussure prime sur le confort.
Voilà. Alors que une belle démarche, ça passe avant une belle chaussure. Pour moi, je trouve qu'une jolie démarche, ça passe avant la beauté de la chaussure.
Est-ce que je vais être très incorrect si je vous demande votre âge ?
Pas du tout.
Sinon, vous m'envoyez balader.
Hein. Non, pas du tout. J'ai 80 ans depuis le mois de janvier.
Mais
ça me fait rire parce que il y a, je sais pas, 30 ans, j'imaginais cet âge-là, je n'aurais pas imaginé que je vivrais de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans. Parce que je vis de la même
mais
façon.
C'est pour les talons que je vous pose la question. C'est qu'en fait, quand on a 80 ans, les femmes ne mettent plus beaucoup de talons.
Ah, moi j'adore les talons.
Ça devient compliqué d'avoir l'équilibre.
C'est pour ça qu'il faut garder ses pieds en bon état. Et puis garder son équilibre. Oui, alors le sens de l'équilibre, comme je fais du vélo, du surf et tout ça, le sens de l'équilibre, c'est pas un problème majeur. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je suis pour 2-3 jours à 50 km de Paris, dans une forêt. Et je parcours des chemins de chèvres entre le parking et mon chalet. Je descends, je remonte. Ces escaliers qui ne sont même pas des escaliers, c'est de la terre qui a été coupée avec des bouts de bois, ça dégringole.
C'est des marches moi. Plus que des escaliers.
Je descends ça en courant, je remonte en courant, aucun problème. Mais c'est vrai que moi je vois des personnes qui viennent dans ces endroits-là et elles n'arrivent pas à passer par là. Elles sont obligées de faire un grand tour avec un chemin plus. Mais ça aussi, ça vient du fait de marcher pieds nus. Parce que quand on marche pieds nus, on ne se blesse pas. On sait où.
Paradoxalement, et contrairement à ce qu'on pense, on se blesse moins quand on marche pieds nus.
Bien sûr, parce qu'on regarde où on met les pieds. Et ça, c'est important dans la vie de regarder où on met les pieds, au niveau physique et au niveau psychologique. Donc là, a toujours un impact sur l'autre. Donc quand on marche pieds nus, on a une vision, on peut courir, on a une vision très très précise du sol et on met pas le pied n'importe où, ça c'est certain. Quand j'étais enfant, j'étais très mortifiée du fait que mes parents exigeaient que ma sœur et moi ayons des sandales à l'école et qu'on ne les quitte pas. Et à la récréation, on courait, etc. Toutes les autres se lavaient les pieds au robinet avant de rentrer en classe. Et nous, on n'avait pas le droit d'enlever nos chaussures. Ben, si par hasard, il y avait une mauvaise odeur parce qu'on avait marché sur une crotte de chien, ça pouvait être que la personne qui avait des chaussures. C'est horrible. Donc je détestais les chaussures.
Alors, un des sujets qui intéresse beaucoup les auditeurs, alors ça c'est sans fin, c'est la Lux Valgus. Comment s'en débarrasser ? Alors vous avez un truc.
La Lux Valgus. Alors la Lux Valgus, c'est déjà on peut l'éliminer complètement sans aucune autre aide si on marche pieds nus sur du sable qui n'est pas dur, du sable qui mou, qui commence à être mou.
C'est l'oignon, hein, pour expliquer. Enfin, pour
voilà, les oignons,
que c'est.
Ouais. Les oignons, toutes les déformations, que ce soit des boules qui se forment, que ce soit les orteils qui se déplacent, eh bien, c'est en marchant pieds nus sur un sol naturel, beaucoup, pendant 2-3 mois. Alors, c'est pas toujours possible. Pour tout le monde, moi ça m'est arrivé d'avoir les pieds abîmés par des chaussures et en 2 mois d'été pieds nus complètement, les pieds ont retrouvé leur forme parfaite, la boule est partie, tout s'en va. Mais
ça veut dire qu'en fait les pieds ont la capacité de reprendre leur forme initiale.
Mais oui, c'est pas
même s'il y a un oignon.
Ce sont pas des bouts de bois secs, c'est du vivant. Et donc ça peut se former et se déformer et se reformer. Ils sont résilients au sens physique du terme, de la physique, c'est-à-dire au sens qui a été donné d'abord au métal qu'on déforme avec la chaleur et qui retrouve sa forme quand il se refroidit. Eh bien, c'est le cas des rails des trains. Par exemple, les rails des trains s'allongent quand le train passe, parce que sous l'effet de la chaleur, et puis ensuite ils retrouvent leur place. Ça s'appelle la résilience. Donc les pieds ont la même résilience. C'est pas parce qu'ils se déforment qu'ils peuvent pas retrouver leur forme. Alors maintenant, il y a une aide sympathique. Ce sont les fameuses chaussures à doigts. En France, les meilleures, franchement, ce sont les Five Fingers parce que c'est du bon cuir, c'est de très bonne qualité, sans être excessif en prix. Et il y en a qui sont souples pour la maison. Chaque doigt de pied a une petite loge. Et moi, j'y rentre en écartant les orteils, comme ça, sans aucun problème. Mais il y en a qui ont besoin de placer leurs doigts un à un pour les remettre dans les petites loges. Et en marchant avec ça, au début, un quart d'heure, 10 minutes, ensuite une demi-heure, une heure, etc., de plus en plus, eh bien, on remuscle tous les orteils, on remuscle tout toute la musculature du pied, et du coup, les doigts retrouvent leur place. J'ai vu vraiment des personnes qui devaient être opérées et qui, au bout d'un an, avaient complètement redressé leurs pieds. Dans un premier temps, ça supprime beaucoup de douleurs. Alors, si on met le bain dérivatif en plus, ça aide, évidemment.
Ça marche ensemble.
Ouais. Exactement. Mmh. Et puis, au bout d'un an, leurs pieds sont devenus très jolis. Moi, vraiment, j'étais ravie de voir des personnes, même de 55, 60 ans, qui sont pas, je veux dire, que quelqu'un de 20 ans y arrive facilement, on n'est pas trop surpris. Que quelqu'un de 50, 60 ans, 70 ans y arrive, ça fait super plaisir. Parce que c'est pas une question d'âge. L'âge n'est qu'une étiquette. C'est rien, l'âge.
Mais, ça, c'est un espoir, hein, parce que quand on a vraiment les pieds déformés, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Pour l'arthrose aussi, vous avez des...
Ah oui, alors là, l'arthrose, c'est une question d'alimentation, de bains dérivatifs. C'est vraiment ça. J'ai des dossiers, j'ai des IRM.
On parle d'arthrose du pied. Hein,
ouais. J'ai des IRM de personnes qui ont mangé comme je le conseille. Je n'ai rien inventé en alimentation. Et en plus, l'alimentation que je conseille, elle est traditionnelle et universelle. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, vous avez des plats emblématiques qui sont la meilleure alimentation pour le corps, qui permettent au corps de fabriquer des graisses brunes, qui sont pleines de cellules souches et qui vont réparer tous les os, les muscles, etc.
De graisse ?
Des graisses brunes qui viennent avec certains types d'alimentation. Et ce qui est fantastique, le couscous, la paella, le cassoulet, la cuisine italienne. Dans tous les pays du monde, vous avez une composition faite de 5 éléments qui sont soit une céréale, soit une tubercule, pomme de terre, patate douce, tout ce qu'on voudra, des légumes, un tout petit peu de légumineuses, une cuillère à soupe dans un couscous, vous avez une cuillère de pois chiche par personne, vous n'avez pas une platée de pois chiche. L'assiette libanaise, vous avez une cuillère à soupe de lentilles. Chez les Chinois, vous avez une cuillère à soupe de haricots rouges, pas plus. Vous avez un tout petit peu de protéines animales, ça peut être un œuf, ça peut être du fromage, ça peut être un bout de viande, un peu de poisson ou un bouillon de poulet, des choses comme ça. Et puis, un corps gras qui est... En général, une très bonne huile. C'est très simple. Et alors, l'avantage, c'est que ça vous rattache à votre culture. Parce que la première culture, la première transmission de la culture, c'est l'alimentation. C'est vraiment la première culture. Et c'est le premier partage. Et donc, parce que moi, toutes ces alimentations qu'on nous raconte un peu partout, qui vous sortent de votre culture, je trouve ça triste. Parce que c'est fantastique de retrouver les plats de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. C'est une transmission culturelle, même si on l'améliore petit à petit, etc. Mais ça reste une transmission culturelle. Et pour moi, c'est fondamental, cette chose-là. On a dit beaucoup, beaucoup de mal de cette alimentation, mais c'est totalement stupide.
Cette alimentation intelligente. Alors, France Guilin, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 10h, et vous publiez « Nos chers pieds ». Voilà, bien-être, beauté, confort. Votre éditeur, c'est Le Rocher, et il vient de sortir en poche.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous avons la chance d'avoir France Guilin qui est avec nous, navigatrice hors pair. Pendant des années, vous êtes restée pieds nus sur le pont d'un bateau, alors que c'est quand même dangereux d'être...
Ah ben, c'est ce que tout le monde dit, et moi, j'ai essayé les chaussures de pont et tout ça, on m'en a même offert des magnifiques et tout. Je peux pas. Même un pont mouillé, moi, j'ai jamais glissé, parce que mes orteils savent tenir. Et j'aimais pas du tout, même quand il faisait froid, je préférais 100 fois être pieds nus sur le pont, je me sentais bien plus en sécurité. Parce que les pieds, vraiment, c'est aussi important que mes mains. Voilà, c'est comme si on m'avait demandé de mettre des gants de boxe pour naviguer, quoi. Mmh. J'avais besoin de savoir ce que je tiens. Voyez, et avec les pieds, c'est pareil, besoin de contact direct. Parce que la chaussure ne me permet pas de savoir comment mon pied est accroché.
Et c'est ça que vous avez compris sur un bateau, c'est que finalement, les pieds, c'est aussi important que les mains.
Ah ben oui, c'est comme quand on se promène dans une forêt du Canada, par exemple. Si on veut circuler au milieu de la forêt et ne pas passer par les chemins qui sont tracés, eh bien, vu qu'ils ne font pas de sous-bois, c'est pas comme en France, on est obligé d'utiliser ses mains pour écarter les branches, etc. Et donc, et puis on sait pas trop quel est le sol en dessous. Il peut y avoir un trou. Donc, on se tient autant avec avec les mains qu'avec les pieds. Mmh. Et ben, sur un bateau, marcher sans se tenir, c'est très difficile sur un, quand on navigue. Parce que ça bouge tellement, on se tient au banc, on se tient partout. Quoi. Et on retrouve la même situation que l'être humain à la base, qui, pour aller chercher à manger, pour trouver des fruits, était obligé de rentrer dans la forêt. Et obligé de se tenir. Et du coup, étant obligé de se tenir, en plus il y a des choses qui sont un peu au perché, etc. Ben, comment il attrapait les fruits? Il attrapait avec ses dents. Et quand l'être humain a commencé à se mettre sur deux jambes, c'est-à-dire vivre à des endroits qui n'étaient pas la forêt, mais où il cultivait, où on ramassait au sol, c'était le début de la sédentarisation. Et bien là, il s'est libéré les mains, et avec ses mains, il a pu faire autre chose que se tenir. Il a pu peler, couper, préparer, etc. Et ça, cette position debout a permis un développement du cerveau. À l'origine, on avait un seul œil, là, comme les certains sauriens. Cet œil a été divisé en deux par le cortex. Le cortex, c'est une zone du cerveau très importante. C'est le cerveau social. C'est vraiment la partie qui règle notre relation à l'autre. C'est ce qui nous permet de faire une émission. Mais c'est aussi...
Le cortex, c'est très important. Je suis resté avec mon œil, là, au milieu du front.
Alors,
là.
Il reste derrière ce qu'on appelle le troisième œil. Il reste du tissu rétinien. Quand les UV rentrent dans les yeux par la rétine, eh bien, ils se rejoignent juste là derrière, au milieu, et ils vont sur la pinéale et derrière sur l'hypophyse, comme à l'origine quand on n'avait qu'un seul œil. Ça, c'est très très intéressant, cette chose-là, parce que ça va entrer en ligne dans notre système hormonal, et c'est ce qui va, ça va nous aider à fixer le calcium. Vous voyez un peu toute la cascade d'action.
Vous êtes trop forte, hein, vous êtes retombée sur vos pieds.
Et donc, ce cortex est tellement le cerveau social que moi j'ai vu une émission qui avait été tournée au Canada dans une prison où on mettait des prisonniers, des prédateurs sexuels, et ils montraient des photos. Ces gens n'avaient pas de cortex souvent, c'est-à-dire que leur front est assez plat et ils n'ont pas développé le cortex, et donc ils n'ont aucune empathie. Et à partir de ce moment-là, la loi américaine a interdit de condamner à mort les criminels de moins de 25 ans, parce que le cerveau ne se développe jusqu'à 25 ans. Et si vous avez chez vous un ado à qui vous êtes obligé de répéter 100 fois qu'il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer dans la maison, par exemple, eh bien, c'est normal, parce que son cortex n'est pas encore complètement développé. C'est-à-dire que vous pouvez le mater en le punissant, en lui faisant souffrir, mais il ne peut pas prévoir les conséquences de ses actes. Si vous lui dites qu'il a une mauvaise note parce qu'il n'a pas étudié avant, il entend les mots, mais ça n'a pas de sens pour lui. Il ne peut pas se projeter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on répète 100 fois la même chose aux ados. C'est normal.
Alors, il y a énormément de trucs, hein, dans votre livre, on ne va pas tous les donner, mais il y en a un pour l'ongle incarné, là c'est pareil. Le contre l'ongle incarné, à base d'argile verte.
Les ongles incarnés. Alors là, oui, tout à l'heure...
C'est vous, c'est pas vous, ça.
Une podologue. Une podologue nous a expliqué médicalement comment elle fait. Alors, nous faisons... Avec un ongle incarné, le mieux, c'est de mettre de l'argile. C'est vraiment le plus efficace.
L'argile verte. Hein.
De l'argile verte, illite. C'est la plus courante en Occident. Mais il faut vraiment mettre une épaisseur d'au moins 2 cm. Ça fait une énorme boule. Et en une nuit, on a complètement nettoyé et récupéré son ongle incarné sans aucun problème. Si par hasard, il y a une infection, eh bien, on plonge son pied dans de l'eau légèrement javelisée. J'ai beaucoup vécu sous les tropiques. J'ai rencontré beaucoup de médecins militaires qui savent ce que c'est qu'une infection, puisque quand même les militaires se trouvent dans des situations très difficiles souvent, et ils m'ont toujours dit ne prenez aucun produit pharmaceutique, parce qu'aucun n'est aussi puissant que l'eau de Javel. Et c'est vrai que c'est radical. On fait tremper dans un petit peu, on met un dé d'eau de Javel dans un petit verre d'eau, ça suffit comme quantité. On fait tremper 10 minutes. Ça va vraiment éliminer les germes les plus dangereux, parce que souvent ce sont des staphylocoques. Et ensuite, on met de l'argile et ça vous nettoie ça magnifiquement bien. Il n'y a aucun problème.
La corne au pied, on l'enlève ou on l'enlève pas? La corne aux pieds.
La corne aux pieds. Oui. Alors, la corne aux pieds, elle est indispensable, normalement. Si elle fait souffrir, il y a des gens que ça fait souffrir parce qu'elle est dure dans leurs chaussures. Alors, évidemment, ils la râpent. Mais normalement, la corne, ça nous sert de semelle. C'est ce qui nous sert de semelle. J'ai toujours trouvé absolument incroyable qu'on veuille enlever la corne qui est sous les pieds, parce que c'est vraiment ce qui nous permet justement de marcher sans avoir trop de perceptions douloureuses, enfin en évitant toutes les perceptions douloureuses. Ça ne fait pas quand même une étanchéité comme une semelle, mais c'est indispensable quand même, parce qu'on a besoin d'un peu de corne aux pieds. C'est un peu comme si on voulait s'arracher les ongles aussi, hein, pourquoi pas, parce qu'on trouve que les ongles c'est dur.
Oui, mais c'est pour avoir des petits pieds polis, enfin, vous voyez,
alors,
tout doux.
Alors on arrive aux pieds érotiques et aux pieds érogènes. Les pieds sont une zone du corps très intéressante au niveau relation.
Au niveau des chatouilles.
De couple. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire, parce que c'est une zone du corps qui a une incidence sur tous nos organes et tout notre corps. Donc, avoir les pieds peuvent être extrêmement sexy. J'imagine bien qu'à l'époque de Cro-Magnon, Cro-Magnon devait regarder
beaucoup plus les pieds que la poitrine de Madame Cro-Magnon.
Ah ben,
comment vous en arrivez à cette conclusion?
D'autant plus qu'à l'origine, ouais, les femmes n'avaient pas de poitrine proéminente. À l'origine, toutes les femmes, on trouve encore beaucoup. Si vous avez vu des ballets tahitiens, par exemple, vous aurez remarqué que les tahitiennes, avec une demi-noix de coco, c'est tout petit, couvrent leurs seins parce qu'ils sont très petits. Les seins qui sont proéminents, c'est une. Comment il s'appelle? Desmond Morris, qui explique ça très bien, moi j'adore sa explication. Il dit que pendant longtemps, les femmes draguaient par derrière, par les fesses. Elles attiraient par leurs fesses. Les hommes étaient attirés par leurs fesses. Et puis, elles ont fait tellement grossir leurs fesses que, nous dit Desmond Morris, elles ne permettaient plus l'acte auquel elles invitaient. C'est joliment dit. Et les femmes se sont retournées et elles ont transformé leurs seins en fesses. Et quand un enfant dessine un cœur, il ne dessine pas Un cœur, ça n'a pas cette forme-là. C'est une paire de fesses.
Faut que je rebondisse. Mais c'est ça, les grands moments de solitude radiophonique.
Mais c'est la réalité.
Non, mais je sais. Moi, alors là, franchement, France Guilin, je vous crois tout à fait. C'est qui Desmond Morris, d'ailleurs?
Desmond Morris, c'est un éthologue. C'est un des plus grands éthologues, un des premiers éthologues qui existent. Il a écrit Le singe nu, il a écrit La magie du corps, il a écrit Le cheval, Le cheval révélé, Le chat révélé. C'est un délice parce qu'il est bourré d'humour, d'une grande finesse, mais il n'a pas peur de la réalité. Et j'aime beaucoup cette façon très élégante et drôle d'expliquer les choses.
Est-ce qu'on peut attraper froid par les pieds?
Alors, normalement, non. Alors,
mais ça, c'est fou, ça. Ma grand-mère me disait toujours, mets tes chaussettes, tu vas attraper froid aux pieds.
Oui, ne marche pas pieds nus sur le carrelage, etc. Ouais, etc.
Ça, moi, j'ai entendu ça toute
voilà. Nuit. Si vous regardez les petits-enfants, les bébés, les tout-petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent d'abord tout ce qu'ils ont aux pieds. Ils marchent pieds nus tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les grands-mères disaient ne marche pas pieds nus sur le carrelage, parce que les enfants, tous les enfants, ont envie de marcher pieds nus sur le carrelage. Et ils n'attrapent jamais mal avec ça. Parce qu'on n'a jamais pris froid par les pieds. On peut prendre froid par le dos, on peut prendre froid par la tête, mais on ne prend pas froid par les pieds. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a des tas de moines qui sont pieds nus tout l'hiver, avec leur robe de bure. Tous les gens qui ont l'habitude de marcher pieds nus en hiver, pieds nus dans des sandales, se plaignent pas du tout de prendre froid par les pieds. C'est une idée. Et puis, si le corps a suffisamment de graisse brune, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on n'a pas froid du tout.
Mais, par contre, on peut avoir les pieds froids.
Avoir les pieds froids, oui. Alors,
ce qui est autre chose.
Voilà. Ouais. Alors moi, je conseille, comme je parle du bain dérivatif du froid dans l'entrejambe, je dis quand vous êtes en couple, les nanas, si vous avez les pieds froids, eh bien, il y a un bon endroit où aller les réchauffer. Vous ferez du bien à tout le monde.
Et c'est moi qui vous lance là-dessus. Je crée mon propre malheur, France. Mais il y a des gens qui se plaignent d'avoir toujours les pieds froids.
Ben oui, mais il y a des beaux endroits où les mettre.
Bien. Vous avez parlé du côté érogène des pieds, mais Les pieds, c'est chatouilleux quand même. C'est un des endroits les plus chatouilleux du corps.
Oui, parce
d'où ça vient, ça?
Parce que le pied, précisément, c'est notre première appréhension du monde. C'est le premier contact. Ils ont besoin d'une immense sensibilité de façon à ne pas se poser sur n'importe quoi et n'importe comment, ne pas s'appuyer inconsidérément, etc. Ils nous protègent. C'est vraiment notre meilleure prévention. Ils nous permettent d'analyser le sol. Pour quelqu'un qui est aveugle, c'est vraiment... qu'on appelle les malvoyants, c'est vraiment, au lieu d'avoir une canne qui va étudier le sol, pieds nus, c'est beaucoup plus facile. Même sans canne, ils peuvent tâter du pied, tâter du bout de pied avec les orteils et savoir s'ils peuvent avancer ou pas avancer.
Oui, à noter que la plante du pied est la zone du corps qui possède le plus grand nombre de capteurs sensoriels.
On peut dire qu'on voit avec ses pieds.
Au centimètre carré.
Oui.
C'est passionnant votre livre, il y a énormément de choses dans ce petit livre qui sont très utiles. France Guilin était avec nous, vous reviendrez parce que j'aimerais vous faire parler d'alimentation intelligente.
Oui.
Ah, ça c'est bien comme sujet. Nos chers pieds, bien-être, beauté, confort, chouchoutez vos pieds, prenez-en soin. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Voilà, vous allez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo donc sur notre chaîne YouTube. Merci et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.